Un classeur énorme m'attendait sur mon bureau. « Vous vérifieriez les notes de frais des voyages d'affaires, » me dit-elle. « Encore de la comptabilité ? Je vous ai pourtant averti de mes déficiences. Cela n'a plus rien à voir. Ce travail-ci sollicitera votre intelligence, » précisa-t-elle avec un sourire narquois. Elle ouvrit le classeur. « Voici par exemple le dossier que M. Shiranai a constitué en vue d'être remboursé pour ses frais à l'occasion de son voyage d'affaires à Düsseldorf. Vous devez refaire le moindre de ses calculs et les contester si vous n'obtenez pas le même résultat que lui au yen près. À cette fin, comme la plupart des factures sont réglées en marque, vous devez calculer sur la base du cours du marque aux dates indiquées sur les tickets. N'oubliez pas que les taux changent chaque jour. » Commença alors l'un des pires cauchemars de ma vie. Dès l'instant où cette nouvelle tâche me fut attribuée, la notion de temps disparut de mon existence pour laisser place à l'éternité du supplice. Jamais, au grand jamais, il ne m'arriva de tomber sur un résultat, sinon identique, au moins comparable à ceux que j'étais censé vérifier. Par exemple, si le cadre avait calculé que Yumimoto lui devait 93 327 yens, j'obtenais 15 211 yens ou alors 172 045 yens. Et il apparut très vite que les erreurs étaient dans mon camp. À la fin de la première journée, je dis à Fubuki « Je ne pense pas être capable de remplir cette mission. Il s'agit pourtant d'un travail qui sollicite l'intelligence, » répliqua-t-elle implacable. « Je ne m'en sors pas, » avouai-je lamentablement. « Vous vous habituerez. » Je ne m'habituais pas. Il se révéla que j'étais incapable au dernier degré et, malgré des efforts acharnés, d'effectuer ces opérations. Ma supérieure s'empara du classeur pour me prouver combien c'était facile. Elle prit un dossier et se mit à tapoter à une vitesse fulgurante sur sa calculette, dont elle n'avait même pas besoin de regarder le clavier. En moins de 4 minutes, elle conclut « J'obtiens le même montant que M. Shaitama, au yen près. » Et elle apposa son cachet sur le rapport. Subjugué par cette nouvelle injustice de la nature, je repris mon labeur. Ainsi, 12 heures ne me suffisaient pas à boucler ce dont Fubuki se jouait en 3 minutes 50 secondes. Je ne sais combien de jours s'étaient écoulés quand elle remarqua que je n'avais encore régularisé aucun dossier. « Pas même un seul ? » s'exclama-t-elle. « En effet, » dis-je, attendant mon châtiment. Pour mon malheur, elle se contenta de montrer le calendrier. « N'oubliez pas que le classeur doit être achevé pour la fin du mois. » J'aurais préféré qu'elle se mît à hurler. Des jours passèrent encore. J'étais en enfer. Je recevais sans cesse des trombes de nombres avec virgules et décimales en pleine figure. Ils se muaient dans mon cerveau en un magma opaque et je ne pouvais plus les distinguer les uns des autres. Un oculiste me certifia que ce n'était pas ma vue qui était en cause. Les chiffres, dont j'avais toujours admiré la calme beauté pythagoricienne, devinrent mes ennemis. La calculette aussi me voulait du mal. Au nombre de mes handicaps psychomoteurs, il y avait celui-ci. Quand je devais tapoter sur un clavier pendant plus de 5 minutes, ma main se retrouvait soudain aussi engluée que si je l'avais plongée dans une purée de pommes de terre épaisse et collante. 4 de mes doigts étaient irrémédiablement immobilisés. Seul l'index parvenait encore à émerger pour atteindre les touches, avec une lenteur et une gaucherie incompréhensibles pour qui ne distinguait pas les patates invisibles. Et comme de plus, ce phénomène se doublait d'une rare stupidité face aux chiffres, le spectacle que j'offrais devant la calculette avait de quoi décontenancer. Je commençais par regarder chaque nouveau nombre avec autant d'étonnement que Robinson rencontrant un indigène de ce territoire inconnu. Ensuite, ma main gourde essayait de le reproduire sur le clavier. Pour cela, ma tête ne cessait d'effectuer des allers-retours entre le papier et l'écran afin d'être sûre de ne pas avoir égaré une virgule ou un zéro en cours de route. Le plus étrange étant que ces vérifications minutieuses ne m'empêchaient pas de laisser passer des erreurs colossales. Un jour, comme je tapotais pitoyablement sur la machine, je levai les yeux et je vis ma supérieure qui m'observait avec consternation. « Quel est donc votre problème ?» demanda-t-elle. Pour la rassurer, je lui confiai le syndrome de la purée de pommes de terre qui paralysait ma main. Je crus que cette histoire me rendrait sympathique. L'unique résultat de ma confidence fut cette conclusion que je lus dans le superbe regard de Fubuki. « À présent, j'ai compris. C'est une véritable handicapée mentale. Tout s'explique. La fin du mois approchait et le classeur demeurait aussi épais. Êtes-vous sûr que vous ne le faites pas exprès? Absolument sûr. Y a-t-il beaucoup de gens comme vous dans votre pays? J'étais la première Belge qu'elle rencontrait. Un sursaut d'orgueil national me poussa à répondre la vérité. Aucun Belge n'est semblable à moi. Cela me rassure, j'éclatai de rire. Vous trouvez cela comique? On ne vous a jamais dit, Fubuki, qu'il était avilissant de rudoyer les handicapés mentaux? Si, mais on ne m'avait pas prévenu que j'aurais l'un d'entre eux sous mes ordres. Je rigolais de plus belle. Je ne vois toujours pas ce qui vous amuse. Cela fait partie de ma maladie psychomotrice. Concentrez-vous plutôt sur votre travail. Le 28, je lui annonçai ma décision de ne plus rentrer chez moi le soir. Avec votre permission, je passerai les nuits ici, à mon poste. Votre cerveau est-il plus efficace dans l'obscurité? Espérons-le. Peut-être cette nouvelle contrainte le rendra-t-elle enfin opérationnel. Je reçus son autorisation sans difficulté. Il n'était pas rare que des employés restent au bureau toute la nuit quand il y avait des échéances à respecter. Croyez-vous qu'une nuit suffira? Certainement pas. Je n'ai pas prévu de rentrer chez moi avant le 31. Je lui montrai un sac à dos. J'ai apporté ce qu'il me faut. Une certaine griserie s'empara de moi lorsque je me retrouvai seule dans la compagnie Yumimoto. Elle passa très vite, quand je constatai que mon cerveau ne fonctionnait pas mieux la nuit. Je travaillais sans trêve. Cet acharnement ne donna aucun résultat. À 4 heures du matin, j'allais faire une rapide toilette devant un lavabo et me changer. Je bus un thé très fort et regagnai mon poste. Les premiers employés arrivèrent à 7 heures. Fubuki arriva 1 heure plus tard. Elle eut un bref regard sur le casier des notes de frais vérifiées et vit qu'il était toujours aussi vide. Elle hocha la tête. Une nuit blanche succéda à la précédente. La situation demeurait inchangée. Dans mon crâne, les choses restaient aussi confuses. J'étais pourtant très loin du désespoir. Je ressentais un optimisme incompréhensible qui me rendait audacieuse. Ainsi, sans interrompre mes calculs, je tenais à ma supérieure des discours pour le moins hors de propos. « Dans votre prénom, il y a la neige. Dans la version japonaise de mon prénom, il y a la pluie. Cela me paraît pertinent. Il y a entre vous et moi la même différence qu'entre la neige et la pluie, ce qui ne nous empêche pas d'être composés d'un matériau identique. Trouvez-vous vraiment qu'il y ait un point de comparaison entre vous et moi ?» Je riais. En vérité, à cause du manque de sommeil, je riais pour un rien. J'avais parfois des coups de fatigue et de découragement, mais je ne tardais jamais à retomber dans mon hilarité. Mon tonneau des Danaïdes ne cessait de se remplir de chiffres que mon cerveau percé laissait fuir. J'étais le Sisyphe de la comptabilité, et tel le héros mythique, je ne me désespérais jamais. Je recommençais les opérations inexorables pour la 100e fois, la 1000e fois. Je me dois au passage de signaler ce prodige. Je me trompais 1000 fois, ce qui eût été consternant comme de la musique répétitive si mes 1000 erreurs n'avaient été diverses à chaque fois. J'obtins pour chaque calcul 1000 résultats différents. J'avais du génie. Il n'était pas rare qu'entre 2 additions je relève la tête pour contempler celle qui m'avait mise aux galères. Sa beauté me stupéfiait. Mon seul regret était son brushing propret qui immobilisait ses cheveux mi-longs en une courbe imperturbable dont la rigidité signifiait « Je suis une executive woman ». Alors, je me livrais à un délicieux exercice. Je la décoiffais mentalement. À cette chevelure éclatante de noirceur, je rendais la liberté. Mes doigts immatériels lui donnaient un négligé admirable. Parfois, je me déchaînais. Je lui mettais les cheveux dans un tel état qu'elle semblait avoir passé une folle nuit d'amour. Cette sauvagerie la rendait sublime. Il advint que Fubuki me surprit dans mon métier de coiffeuse imaginaire. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» Je pensais qu'en japonais, « cheveux » et « dieu » se disent de la même façon. « Papier aussi, ne l'oubliez pas. Retournez à votre paperasse. » Mon flou mental s'aggravait d'heure en heure. Je savais de moins en moins ce que je devais dire ou ne pas dire. En cherchant le cours de la couronne suédoise à la date du 20 2 1990, ma bouche prit l'initiative de parler. « Qu'est-ce que vous vouliez devenir plus tard quand vous étiez petite ?»« Championne de tir à l'arc. Cela vous irait bien. » Comme elle ne me rendait pas ma question, j'enchaînais. Moi, quand j'étais petite, je voulais devenir Dieu, le Dieu des chrétiens, avec un grand D. Vers l'âge de 5 ans, j'ai compris que mon ambition était irréalisable. Alors, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et j'ai décidé de devenir le Christ. J'imaginais ma mort sur la croix devant l'humanité entière. À l'âge de 7 ans, j'ai pris conscience que cela ne m'arriverait pas. J'ai résolu, plus modestement, de devenir martyr. Je me suis tenue à ce choix pendant de nombreuses années. Cela n'a pas marché non plus. Et ensuite ? Vous le savez, je suis devenue comptable chez Yumimoto et je crois que je ne pouvais pas descendre plus bas. Vous croyez ? Demanda-t-elle avec un drôle de sourire. Vint la nuit du 30 au 31. Fubuki fut la dernière à partir. Je me demandais pourquoi elle ne m'avait pas congédiée. N'était-il pas trop clair que je ne parviendrais jamais à boucler même le centième de mon travail ? Je me retrouvais seule. C'était ma troisième nuit blanche d'affilée, dans le bureau géant. Je tapotais sur la calculette et notais des résultats de plus en plus incongrus. Il m'arriva alors une chose fabuleuse. Mon esprit passa de l'autre côté. Soudain, je ne fus plus amarrée. Je me levai. J'étais libre. Jamais je n'avais été aussi libre. Je marchais jusqu'à la baie vitrée. La ville illuminée était très loin au-dessous de moi. Je dominais le monde. J'étais Dieu. Je défenestrais mon corps pour en être quitte. J'éteignis les néons. Les lointaines lumières de la cité suffisaient à y voir clair. J'allai à la cuisine chercher un coca que je bus d'un trait. De retour à la section comptabilité, je délaçai mes souliers, les envoyai promener. Je sautai sur un bureau, puis de bureau en bureau, en poussant des cris de joie. J'étais si légère que les vêtements m'accablaient. Je les enlevai un à un et les dispersai autour de moi. Quand je fus nue, je fis le poirier. Moi qui de ma vie n'en avais jamais été capable. Sur les mains, je parcourus les bureaux adjacents. Ensuite, après une culbute parfaite, je bondis et me retrouvai assise à la place de ma supérieure. Fubuki, je suis Dieu. Même si tu ne crois pas en moi, je suis Dieu. Tu commandes ce qui n'est pas grand-chose. Moi, je règne. La puissance ne m'intéresse pas. Régner, c'est tellement plus beau. Tu n'as pas idée de ma gloire. C'est bon la gloire. C'est de la trompette jouée par les anges en mon honneur. Jamais je n'ai été aussi glorieuse que cette nuit. C'est grâce à toi. Si tu savais comme tu travailles à ma gloire. Ponce Pilate ne savait pas non plus qu'il œuvrait pour le triomphe du Christ. Il y a eu le Christ aux oliviers. Moi, je suis le Christ aux ordinateurs. Dans l'obscurité qui m'entoure, se hérisse la forêt des ordinateurs de haute futaie. Je regarde ton ordinateur, Fubuki. Il est grand et magnifique. Les ténèbres lui donnent l'apparence d'une statue de l'île de Pâques. Minuit est passé. C'est aujourd'hui vendredi. Mon vendredi saint. Jour de Vénus en français. Jour de l'or en japonais. Et je vois mal quelle cohérence je pourrais trouver entre cette souffrance judéo-chrétienne, cette volupté latine et cette adoration nippone du métal incorruptible. Depuis que j'ai quitté le monde séculier pour entrer dans les ordres, le temps a perdu toute consistance et s'est mué en une calculette sur laquelle je pianote des nombres bourrés d'erreurs. Je crois que c'est Pâques. Du haut de ma tour de Babel, je regarde vers le parc d'Ueno et je vois des arbres enneigés, des cerisiers en fleurs. Oui, ce doit être Pâques. Autant Noël me déprime, autant Pâques me réjouit. Un dieu qui devient un bébé, c'est consternant. Un pauvre type qui devient dieu, c'est quand même autre chose. J'enlace l'ordinateur de Fubuki et le couvre de baisers. Moi aussi, je suis une pauvre crucifiée. Ce que j'aime dans la crucifixion, c'est que c'est la fin. Je vais enfin cesser de souffrir. Ils m'ont martelé le corps de tant de nombres qu'il n'y a plus place pour la moindre décimale. Ils me trancheront la tête avec un sabre et je ne sentirai plus rien. C'est une grande chose que de savoir quand on va mourir. On peut s'organiser et faire de son dernier jour une œuvre d'art. Au matin, mes bourreaux arriveront et je leur dirai « J'ai failli. Tuez-moi. Accomplissez mon ultime volonté que ce soit Fubuki qui me donne la mort. Qu'elle me dévisse le crâne comme à un poivrier. » mon sang coulera et ce sera du poivre noir. Prenez et mangez, car ceci est mon poivre qui sera versé pour vous et pour la multitude, le poivre de l'alliance nouvelle et éternelle. Vous éternuerez en mémoire de moi. Soudain, le froid s'empare de moi. J'ai beau serrer l'ordinateur dans mes bras, ça ne réchauffe pas. Je remets mes vêtements. Comme je claque toujours des dents, je me couche par terre et je renverse sur moi le contenu de la poubelle. Je perds connaissance. On me crie dessus. J'ouvre les yeux et je vois des détritus. Je les referme. Je retombe dans l'abîme. J'entends la douce voix de Fubuki. Je la reconnais bien là. Elle s'est recouverte d'ordures pour qu'on n'ose pas la secouer. Elle s'est rendue intouchable. C'est dans sa manière. Elle n'a aucune dignité. Quand je lui dis qu'elle est bête, elle me répond que c'est plus grave, qu'elle est une handicapée mentale. Il faut toujours qu'elle s'abaisse. Elle croit que cela la met hors de portée. Elle se trompe. J'ai envie d'expliquer que c'était pour me protéger du froid. Je n'ai pas la force de parler. Je suis au chaud sous les saletés de Yumimoto. Je sombre encore. J'émergeais. À travers une couche de paperasse chiffonnée, de canettes, de mégots mouillés de coca, j'aperçus l'horloge qui indiquait 10 heures du matin. Je me relevais. Personne n'osa me regarder, à part Fubuki qui me dit avec froideur « La prochaine fois que vous déciderez de vous déguiser en clocharde, ne le faites plus dans notre entreprise. Il y a des stations de métro pour ça. » Malade de honte, je pris mon sac à dos et filai aux toilettes, où je me changeais et me lavais la tête sous le robinet. Quand je revins, une femme d'ouvrage avait déjà nettoyé les traces de ma folie. « J'aurais voulu faire ça moi-même, » dis-je, gênée. « Oui, » commenta Fubuki, « ça au moins, vous en auriez peut-être été capable. J'imagine que vous pensez aux vérifications des frais. Vous avez raison. C'est au-dessus de mes capacités. Je vous l'annonce solennellement, je renonce à cette tâche. » « Vous y avez mis le temps, » observa-t-elle, narquoise. « C'était donc ça, » pensais-je. Elle voulait que ce soit moi qui le dise. Évidemment, c'est beaucoup plus humiliant. « L'échéance tombe ce soir, » repris-je. « Donnez-moi le classeur. » En 20 minutes, elle avait fini. Je passais la journée comme un zombie. J'avais la gueule de bois. Mon bureau était recouvert de liasses de papier, couvert d'erreurs de calcul. Je les jetais un à un. Quand je voyais Fubuki travailler à son ordinateur, j'avais du mal à m'empêcher de rire. Je me revoyais la veille, nue, assise sur le clavier, enlaçant la machine avec mes bras et mes jambes. Et à présent, la jeune femme posait ses doigts sur les touches. C'était la première fois que je m'intéressais à l'informatique. Les quelques heures de sommeil sous les détritus n'avaient pas suffi à m'extraire de la bouillie que l'excès de chiffres avait fait de mon cerveau. Je pataugeais, je cherchais sous les décombres les cadavres de mes repères mentaux. Cependant, je savourais déjà un répit miraculeux. Pour la première fois depuis 2 semaines interminables, je n'étais pas en train de tapoter sur la calculette. Je redécouvrais le monde sans nombre. Puisqu'il y a l'analphabétisme, il devrait y avoir l'anarithmétisme, pour parler du drame particulier aux gens de mon espèce. Je rentrais dans le siècle. Il peut paraître étrange que, après ma nuit de folie, les choses aient repris comme si rien de grave n'était arrivé. Certes, personne ne m'avait vu parcourir les bureaux toutes nues, en marchant sur les mains, ni rouler un patin à un honnête ordinateur. Mais on m'avait quand même retrouvé endormie sous le contenu de la poubelle. Dans d'autres pays, on m'eût peut-être mise à la porte pour ce genre de comportement. Singulièrement, il y a une logique à cela. Les systèmes les plus autoritaires suscitent, dans les nations où ils sont d'application, les cas les plus hallucinants de déviance, et par ce fait même, une relative tolérance à l'égard des bizarreries humaines les plus sidérantes. On ne sait ce qu'est un excentrique si l'on n'a pas rencontré un excentrique nippon. J'avais dormi sous les ordures? On en avait vu d'autres. Le Japon est un pays qui sait ce que « craquer » veut dire. Je recommençais à jouer les utilités. Il me serait difficile d'exprimer la volupté avec laquelle je préparais le thé et le café. Ces gestes simples, qui ne présentaient aucun obstacle à ma pauvre cervelle, me recousaient l'esprit. Le plus discrètement possible, je me remis à avancer les calendriers. Je m'efforçais d'avoir l'air affairé tout le temps, si grande était ma peur qu'on me recolle aux chiffres. Mine de rien, eut lieu un événement. Je rencontrais Dieu. L'ignoble vice-président m'avait commandé une bière, trouvant sans doute qu'il n'était pas assez gros comme ça. J'étais venue la lui apporter avec un dégoût poli. Je quittais l'antre de l'obèse quand s'ouvrit la porte du bureau voisin. Je tombai nez à nez avec le président. Nous nous regardâmes l'un l'autre avec stupéfaction. De ma part, c'était compréhensible. Il m'était enfin donné de voir le dieu de Yumimoto. De la sienne, c'était moins facile à expliquer. Savait-il même que j'existais? Il sembla que ce fût le cas, car il s'exclama, avec une voix d'une beauté et d'une délicatesse insensée, « Vous êtes sûrement Amélie-san. » Il sourit et me tendit la main. J'étais tellement ahuri que je ne pus émettre un son. Monsieur Haneda était un homme d'une cinquantaine d'années, au corps mince et au visage d'une élégance exceptionnelle. Il se dégageait de lui une impression de profonde bonté et d'harmonie. Il eut pour moi un regard d'une amabilité si vraie que je perdis le peu de contenance qui me restait. Il s'en alla. Je demeurai seul dans le couloir, incapable de bouger. Ainsi donc, le président de ce lieu de torture, où je subissais chaque jour des humiliations absurdes, où j'étais l'objet de tous les mépris, le maître de cette géhenne était ce magnifique être humain, cette âme supérieure. C'était à n'y rien comprendre. Une société dirigée par un homme d'une noblesse si criante eût dû être un paradis raffiné, un espace d'épanouissement et de douceur. Quel était ce mystère? Était-il possible que Dieu règne sur les enfers? J'étais toujours figé de stupeur quand me fut apportée la réponse à cette question. La porte du bureau de l'énorme Omochi s'ouvrit et j'entendis la voix de l'infâme qui me hurlait « Qu'est-ce que vous fichez là? On ne vous paie pas pour traîner dans les couloirs ?» Tout s'expliquait. À la compagnie Yumimoto, Dieu était le président et le vice-président était le diable. Fubuki, elle, n'était ni diable ni Dieu. C'était une japonaise. Toutes les nippones ne sont pas belles. Mais quand l'une d'entre elles se met à être belle, les autres n'ont qu'à bien se tenir. Toute beauté est poignante, mais la beauté japonaise est plus poignante encore. D'abord parce que ce teint de lys, ces yeux suaves, ce nez aux ailes inimitables, ces lèvres aux contours si dessinés, cette douceur compliquée des traits ont déjà de quoi éclipser les visages les plus réussis. Ensuite, parce que ces manières la stylisent et font d'elle une œuvre d'art inaccessible à l'entendement. Enfin et surtout, parce qu'une beauté qui a résisté à tant de corsets physiques et mentaux, à tant de contraintes, d'écrasements, d'interdits absurdes, de dogmes, d'asphyxie, de désolation, de sadisme, de conspiration du silence et d'humiliation, une telle beauté, donc, est un miracle d'héroïsme. Non que la nippone soit une victime, loin de là. Parmi les femmes de la planète, elle n'est vraiment pas la plus mal lotie. Son pouvoir est considérable. Je suis bien placée pour le savoir. Non, s'il faut admirer la japonaise, et il le faut, c'est parce qu'elle ne se suicide pas. On conspire contre son idéal depuis sa plus tendre enfance. On lui coule du plâtre à l'intérieur du cerveau. Si à 25 ans tu n'es pas mariée, tu auras de bonnes raisons d'avoir honte. Si tu ris, tu ne seras pas distinguée. Si ton visage exprime un sentiment, tu es vulgaire. Si tu mentionnes l'existence d'un poil sur ton corps, tu es immonde. Si un garçon t'embrasse sur la joue en public, tu es une putain. Si tu manges avec plaisir, tu es une truie. Si tu éprouves du plaisir à dormir, tu es une vache, etc. Ces préceptes seraient anecdotiques s'ils ne s'en prenaient pas à l'esprit. Car en fin de compte, ce qui est asséné à la nippone à travers ces dogmes incongrus, c'est qu'il ne faut rien espérer de beau. N'espère pas jouir, car ton plaisir t'anéantirait. N'espère pas être amoureuse, car tu n'en vaux pas la peine. Ceux qui t'aimeraient t'aimeraient pour tes mirages, jamais pour ta vérité. N'espère pas que la vie t'apporte quoi que ce soit, car chaque année qui passera t'enlèvera quelque chose. N'espère pas même une chose aussi simple que le calme, car tu n'as aucune raison d'être tranquille. espère travailler. Il y a peu de chances, vu ton sexe, que tu t'élèves beaucoup, mais espère servir ton entreprise. Travailler te fera gagner de l'argent, dont tu ne retireras aucune joie, mais dont tu pourras éventuellement te prévaloir, par exemple en cas de mariage, car tu ne seras pas assez sotte pour supposer que l'on puisse vouloir de toi pour ta valeur intrinsèque. À part cela, tu peux espérer vivre vieille, ce qui n'a pourtant aucun intérêt, et ne pas connaître le déshonneur, ce qui est une fin en soi. Là s'arrête la liste de tes espoirs licites. Ici commence l'interminable théorie de tes devoirs stériles. Tu devras être irréprochable pour cette seule raison que c'est la moindre des choses. Être irréprochable ne te rapportera rien d'autre que d'être irréprochable, ce qui n'est ni une fierté, ni encore moins une volupté. Je ne pourrai jamais énumérer tous tes devoirs, car il n'y a pas une minute de ta vie qui ne soit régentée par l'un d'entre eux. Par exemple, même quand tu seras isolé aux toilettes pour l'humble besoin de soulager ta vessie, tu auras l'obligation de veiller à ce que personne ne puisse entendre la chansonnette de ton ruisseau. Tu devras donc tirer la chasse sans trêve. Je cite ce cas pour que tu comprennes ceci. Si même des domaines aussi intimes et insignifiants de ton existence sont soumis à un commandement, songe a fortiori à l'ampleur des contraintes qui pèseront sur les moments essentiels de ta vie. Tu as faim ? Mange à peine, car tu dois rester mince, non pas pour le plaisir de voir les gens se retourner sur ta silhouette dans la rue, ils ne le feront pas, mais parce qu'il est honteux d'avoir des rondeurs. Tu as pour devoir d'être belle. Si tu y parviens, ta beauté ne te vaudra aucune volupté. Les uniques compliments que tu recevrais émaneraient d'occidentaux, et nous savons combien ils sont dénués de bon goût. Si tu admires ta propre joliesse dans le miroir, que ce soit dans la peur et non dans le plaisir, car ta beauté ne t'apportera rien d'autre que la terreur de la perdre. Si tu es une belle fille, tu ne seras pas grand-chose. Si tu n'es pas une belle fille, tu seras moins que rien. Tu as pour devoir de te marier, de préférence avant tes 25 ans, qui seront ta date de péremption. Ton mari ne te donnera pas d'amour, sauf si c'est un demeuré, et il n'y a pas de bonheur à être aimé d'un demeuré. De toute façon, qu'il t'aime ou non, tu ne le verras pas. À 2 heures du matin, un homme épuisé et souvent ivre te rejoindra pour s'effondrer sur le lit conjugal qu'il quittera à 6 heures sans t'avoir dit un mot. Tu as pour devoir d'avoir des enfants, que tu traiteras comme des divinités jusqu'à leurs 3 ans, âge où, d'un coup sec, tu les expulseras du paradis pour les inscrire au service militaire, qui durera de 3 à 18 ans, puis de 25 ans à leur mort. Tu es obligé de mettre au monde des êtres qui seront d'autant plus malheureux que leurs 3 premières années de vie leur auront inculqué la notion du bonheur. Tu trouves ça horrible ? Tu n'es pas la première à le penser. Tes semblables le pensent depuis 1960. Tu vois bien que cela n'a servi à rien. Nombre d'entre elles se sont révoltées. Et tu te révolteras peut-être pendant la seule période libre de ta vie, entre 18 et 25 ans. Mais à 25 ans, tu t'apercevras soudain que tu n'es pas marié et tu auras honte. Tu quitteras ta tenue excentrique pour un tailleur propret, des collants blancs et des escarpins grotesques. Tu soumettras ta splendide chevelure lisse à un brushing désolant et tu seras soulagé si quelqu'un, mari ou employeur, veut de toi. Pour le cas très improbable où tu ferais un mariage d'amour, tu serais encore plus malheureuse car tu verrais ton mari souffrir. Mieux vaut que tu ne l'aimes pas. Cela te permettra d'être indifférente au naufrage de ses idéaux, car ton mari en a encore, lui. Par exemple, on lui a laissé espérer qu'il serait aimé d'une femme. Il verra vite, pourtant, que tu ne l'aimes pas. Comment pourrais-tu aimer quelqu'un avec le plâtre qui t'immobilise le cœur ? On t'a imposé trop de calculs pour que tu puisses aimer. Si tu aimes quelqu'un, c'est qu'on t'a mal éduqué. Les premiers jours de tes noces, tu simuleras toutes sortes de choses. Il faut reconnaître qu'aucune femme ne simule avec ton talent. Ton devoir est de te sacrifier pour autrui. Cependant, n'imagine pas que ton sacrifice rendra heureux ceux auxquels tu le dédieras. Cela leur permettra de ne pas rougir de toi. Tu n'as aucune chance ni d'être heureuse, ni de rendre heureux. Et si par extraordinaire ton destin échappait à l'une de ces prescriptions, n'en déduis surtout pas que tu as triomphé, déduisant que tu te trompes. D'ailleurs, Tu t'en rendras compte très vite, car l'illusion de ta victoire ne peut être que provisoire. Et ne jouis pas de l'instant. Laisse cette erreur de calcul aux Occidentaux. L'instant n'est rien. Ta vie n'est rien. Aucune durée ne compte qui soit inférieure à 10 000 ans. Si cela peut te consoler, personne ne te considère comme moins intelligente que l'homme. Tu es brillante, cela saute aux yeux de tous, y compris de ceux qui te traitent si bassement. Pourtant, à y réfléchir, trouves-tu cela si consolant? Au moins, si l'on te pensait inférieure, ton enfer serait explicable et tu pourrais en sortir en démontrant, conformément aux préceptes de la logique, l'excellence de ton cerveau. Or, on te sait égal, voire supérieur. Ta gêne est donc absurde, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'itinéraire pour la quitter. Si, il y en a un seul, mais auquel tu as pleinement droit, sauf si tu as commis la sottise de te convertir au christianisme. Tu as le droit de te suicider. Au Japon, nous savons que c'est un acte de grand honneur. N'imagine surtout pas que l'au-delà est l'un de ces paradis joviaux décrits par les sympathiques occidentaux. De l'autre côté, il n'y a rien de si formidable. En compensation, pense à ce qui en vaut la peine, ta réputation posthume. Si tu te suicides, elle sera éclatante et fera la fierté de tes proches. Tu auras une place de choix dans le caveau familial. C'est là le plus haut espoir qu'un humain puisse nourrir. Certes, tu peux ne pas te suicider, mais alors tôt ou tard, tu ne tiendras plus et tu verseras dans un déshonneur quelconque. Tu prendras un amant ou tu t'adonneras à la goinfrerie ou tu deviendras paresseuse, va t'en savoir. Nous avons observé que les humains en général et les femmes en particulier ont du mal à vivre longtemps sans sombrer dans l'un de ces travers liés au plaisir charnel. Si nous nous méfions de ce dernier, ce n'est pas par puritanisme. Loin de nous cette obsession américaine. En vérité, il vaut mieux éviter la volupté parce qu'elle fait transpirer. Il n'y a pas plus honteux que la sueur. Si tu manges à grande bouchée ton bol de nouilles brûlantes, si tu te livres à la rage du sexe, si tu passes ton hiver à somnoler près du poêle, tu sueras, et plus personne ne doutera de ta vulgarité. Entre le suicide et la transpiration, n'hésite pas. Verser son sang est aussi admirable que verser sa sueur est innommable. Si tu te donnes la mort, tu ne transpireras plus jamais et ton angoisse sera finie pour l'éternité. Je ne pense pas que le sort du Japonais soit beaucoup plus enviable. Dans les faits, je pense même le contraire. La Nippone, elle, a au moins la possibilité de quitter l'enfer de l'entreprise en se mariant. Et ne pas travailler dans une compagnie japonaise me paraît une fin en soi. Mais le Nippon, lui, n'est pas un asphyxié. On n'a pas détruit en lui, dès son plus jeune âge, toute trace d'idéal. Il possède l'un des droits humains les plus fondamentaux, celui de rêver, d'espérer. Et il ne s'en prive pas. Il imagine des mondes chimériques, où il est maître et libre. La japonaise n'a pas ce recours, si elle est bien éduquée, et c'est le cas de la majorité d'entre elles. On l'a, pour ainsi dire, amputée de cette faculté essentielle. C'est pourquoi je proclame ma profonde admiration pour toute Nippone qui ne s'est pas suicidée. De sa part, rester en vie est un acte de résistance, d'un courage aussi désintéressé que sublime. Ainsi pensais-je en contemplant Fubuki. « Peut-on savoir ce que vous faites ?» me demanda-t-elle d'une voix acerbe. « Je rêve. Ça ne vous arrive jamais ?»« Jamais. » Je souris. Monsieur Saito venait de devenir père d'un deuxième enfant, un garçon. L'une des merveilles de la langue japonaise est que l'on peut créer des prénoms à l'infini à partir de toutes les catégories du discours. Par l'une de ces bizarreries dont la culture nippone offre d'autres exemples, celles qui n'ont pas le droit de rêver portent des prénoms qui font rêver, comme Fubuki. Les parents se permettent les plus délicats lyrismes quand il est question de nommer une fille. En revanche, quand il s'agit de nommer un garçon, les créations nomastiques sont souvent d'un sordide hilarant. Ainsi, comme il était on ne peut plus licite d'élire pour prénom un verbe à l'infinitif, M. Saito avait appelé son fils Tsutomeru, c'est-à-dire travailler. Et l'idée de ce garçonnet, affublé d'un tel programme en guise d'identité, me donnait envie de rire. J'imaginais dans quelques années l'enfant qui rentrerait de l'école et à qui sa mère lancerait « Travailler, va travailler !» Et s'il devenait chômeur ? Fubuki était irréprochable. Son seul défaut était qu'à 29 ans, elle n'avait pas de mari. Nul doute que ce fut pour elle un sujet de honte. Or, à y réfléchir, si une jeune femme aussi belle n'avait pas trouvé d'époux, c'était parce qu'elle avait été irréprochable. C'était parce qu'elle avait appliqué avec un zèle absolu la règle suprême qui servait de prénom au fils de M. Saito. Depuis 7 ans, elle avait englouti son existence entière dans le travail, avec fruit, puisqu'elle avait effectué une ascension professionnelle rare pour un être du sexe féminin. Mais avec un pareil emploi du temps, il eût été absolument impossible qu'elle convolât en juste noces. On ne pouvait cependant pas lui reprocher d'avoir trop travaillé, car aux yeux d'un Japonais, on ne travaille jamais trop. Il y avait donc une incohérence dans le règlement prévu pour les femmes. Être irréprochable en travaillant avec acharnement menait à dépasser l'âge de 25 ans sans être mariée et, par conséquent, à ne pas être irréprochable. Le sommet du sadisme du système résidait dans son aporie. Le respecter menait à ne pas le respecter. Fubuki avait-elle honte de son célibat prolongé? Certainement. Elle était trop obsédée par sa perfection pour s'autoriser le moindre manquement aux consignes suprêmes. Je me demandais si elle avait parfois des amants de passage. Ce qui était hors de doute, c'est qu'elle ne se serait pas vantée de ce crime de lèse Nadeshiko. Le Nadeshiko, œillet, symbolise l'idéal nostalgique de la jeune japonaise virginale. Moi qui connaissais son emploi du temps, je ne voyais même pas comment elle aurait pu se permettre une banale aventure. J'observais son comportement quand elle avait affaire à un célibataire. Beau ou laid, jeune ou vieux, affable ou détestable, intelligent ou stupide, peu importait. Pourvu qu'il ne lui fût pas inférieur dans la hiérarchie de notre compagnie ou de la sienne. Ma supérieure devenait soudain d'une douceur si appuyée qu'elle en prenait un tour presque agressif. Éperdue de nervosité, ses mains tâtonnaient jusqu'à sa large ceinture qui avait tendance à ne pas rester en place sur sa taille trop mince et remettait par devant la boucle qui s'était décentrée. Sa voix se faisait caressante jusqu'à ressembler à un gémissement. Dans mon lexique intérieur, j'avais appelé ça la parade nuptiale de Mademoiselle Mori. Il y avait quelque chose de comique à regarder mon bourreau se livrer à ses singeries qui diminuaient tant sa beauté que sa classe. Cependant, je ne pouvais m'empêcher d'en avoir le cœur serré, d'autant que les mâles devant lesquels elle déployait cette pathétique tentative de séduction ne s'en apercevaient pas et y étaient donc parfaitement insensibles. J'avais parfois envie de les secouer et de leur crier « Allons, sois un peu galant !» Tu n'as pas vu le mal qu'elle se donne pour toi? Je suis d'accord, ça ne l'avantage pas. Mais si tu savais comme elle est belle quand elle ne fait pas ses manières. Beaucoup trop belle pour toi, d'ailleurs. Tu devrais pleurer de joie d'être convoitée par une telle perle. Quant à Fubuki, j'aurais tant voulu lui dire « Arrête! Tu crois vraiment que ça va l'attirer, ton cinéma ridicule? Tu es tellement plus séduisante quand tu m'injuries et me traites comme du poisson pourri. Si cela peut t'aider, tu n'as qu'à imaginer que lui, c'est moi. Parle-lui en te figurant que tu me parles. Tu seras donc méprisante, hautaine. Tu lui diras qu'il est un malade mental, un bon à rien. Tu verras, il ne restera pas indifférent. Surtout, j'avais envie de lui susurrer. Ne vaut-il pas 1000 fois mieux rester célibataire jusqu'à la fin de tes jours que de t'encombrer de ce doigt blanc? Que ferais-tu d'un mari pareil? Et comment peux-tu avoir honte de ne pas avoir épousé l'un de ces hommes, toi qui es sublime, olympienne, toi qui es le chef-d'œuvre de cette planète? Ils sont quasi tous plus petits que toi. Ne crois-tu pas que c'est un signe? Tu es un arc trop grand pour ces minables archers. » Quand l'homme proie s'en allait, le visage de ma supérieure passait en moins d'une seconde de la minauderie à l'extrême froideur. Il n'était pas rare, alors, qu'elle croise mon regard narquois. Elle resserrait ses lèvres avec haine. Dans une compagnie amie de Yumimoto, travaillait un Hollandais de 27 ans, Pete Kramer. Bien que non japonais, il avait atteint un statut hiérarchique égal à celui de ma tortionnaire. Comme il mesurait 1,90 m, j'avais pensé qu'il était un parti possible pour Fubuki. De fait, quand il passait par notre bureau, elle se lançait dans une parade nuptiale frénétique, tournant et retournant sa ceinture. C'était un brave type qui avait bonne allure. Il convenait d'autant mieux qu'il était hollandais. Cette origine quasi germanique rendait son appartenance à la race blanche beaucoup moins grave. Un jour, il me dit « Vous avez de la chance de travailler avec Mademoiselle Mori. Elle est si gentille. » Cette déclaration m'amusa. Je décidai d'en user. Je la répétai à ma collègue, non sans un sourire ironique, en mentionnant sa gentillesse. J'ajoutais « Cela signifie qu'il est amoureux de vous. » Elle me regarda avec stupéfaction. « C'est vrai ? Je suis formelle, assurai-je. » Elle resta perplexe quelques instants. Voici ce qu'elle devait penser. Elle est blanche. Elle connaît les coutumes des blancs. Pour une fois, je pourrais me fier à elle. Mais il ne faut surtout pas qu'elle soit au courant. Elle prit un air froid et dit « Il est trop jeune pour moi. Il a 2 ans de moins que vous. Aux yeux de la tradition nippone, c'est l'écart parfait pour que vous soyez une Anesan Niobo, une épouse grande sœur. Les Japonais pensent qu'il s'agit du meilleur mariage. La femme a juste un peu plus d'expérience que l'homme. Ainsi, elle le met à l'aise. Je sais, je sais. En ce cas, que lui reprochez-vous ? » Elle se tut. Il était clair qu'elle se rapprochait de l'état second. Quelques jours plus tard, on annonça la venue de Pete Kramer. Un émoi terrible s'empara de la jeune femme. Par malheur, il faisait très chaud. Le Hollandais avait tombé la veste et sa chemise arborait aux aisselles de vastes auréoles de sueur. Je vis Fubuki changer de figure. Elle s'efforça de parler normalement, comme si elle ne s'était aperçue de rien. Ses paroles sonnaient d'autant plus faux que pour parvenir à extraire les sons de sa gorge, elle devait à chaque mot projeter la tête vers l'avant. Elle que j'avais toujours connue si belle et si calme avait à présent la contenance d'une pintade sur la défensive. Tout en se livrant à ce comportement pitoyable, elle regardait ses collègues à la dérobée. Son dernier espoir était qu'il n'ait rien vu. Hélas, comment voir si quelqu'un a vu ? A fortiori, comment voir si un Japonais a vu ? Les visages des cadres de Yumimoto exprimaient la bienveillance impassible typique des rencontres entre deux entreprises amies. Le plus drôle, c'était que Pete Kramer n'avait rien remarqué du scandale dont il était l'objet, ni de la crise intérieure qui suffoquait la si gentille Mademoiselle Mori. Les narines de cette dernière palpitaient. Il n'était pas difficile d'en deviner la raison. Il s'agissait de discerner si l'opprobre axillaire du Hollandais communiait sous les deux espèces. Ce fut là que notre sympathique batave, sans le savoir, compromit sa contribution à l'essor de la race eurasienne. Avisant un dirigeable dans le ciel, il courut jusqu'à la baie vitrée. Ce déplacement rapide développa dans l'air ambiant un feu d'artifice de particules olfactives que le vent de la course dispersa à travers la pièce. Il n'y eut plus aucun doute, la transpiration de Pete Kramer puait. Et personne, dans le bureau géant, n'eût pu l'ignorer. Quant à l'enthousiasme enfantin du garçon devant le dirigeable publicitaire qui survolait régulièrement la ville, personne ne sembla s'en attendrir. Quand l'odorant étranger s'en alla, ma supérieure était exsangue. Son sort devait pourtant empirer. Le chef de la section, M. Saito, donna le premier coup de bec. Je n'aurais pas pu tenir une minute de plus. Il avait ainsi autorisé à médire. Les autres en profitèrent aussitôt. Ces blancs se rendent-ils compte qu'ils sentent le cadavre ? Si seulement nous parvenions à leur faire comprendre qu'ils puent, nous aurions en Occident un marché fabuleux pour des déodorants enfin efficaces. Nous pourrions peut-être les aider à sentir moins mauvais, mais nous ne pourrions pas les empêcher de suer. C'est leur race. Chez eux, même les belles femmes transpirent. Ils étaient fous de joie. L'idée que leurs paroles eussent pu m'indisposer n'avait effleuré personne. J'en fus d'abord flattée. Peut-être ne me considéraient-ils pas comme une blanche ? La lucidité me revint très vite. S'il tenait ses propos en ma présence, c'était simplement parce que je ne comptais pas. Aucun d'entre eux ne se doutait de ce que cet épisode signifiait pour ma supérieure. Si personne n'avait relevé le scandale axillaire du Hollandais, elle eût pu encore s'illusionner et fermer les yeux sur cette tare congénitale de l'éventuel fiancé. Désormais, elle savait que rien ne serait possible avec Pete Kramer. Avoir la moindre liaison avec lui serait plus grave que perdre sa réputation. Ce serait perdre la face. Elle pouvait s'estimer heureuse qu'à part moi, qui était hors jeu, personne n'ait été au courant des vues qu'elle avait eues sur ce célibataire. Tête haute et mâchoire serrée, elle se remit au travail. À la raideur extrême de ses traits, je pus mesurer combien elle avait placé d'espoir en cet homme. Et j'y avais été pour quelque chose. Je l'avais encouragée. Sans moi, eût-elle songé sérieusement à lui. Ainsi, si elle souffrait, c'était en grande partie à cause de moi. Je me dis que j'aurais dû y éprouver du plaisir. Je n'en ressentais aucun. J'avais quitté mes fonctions de comptable depuis un peu plus de 2 semaines quand le drame éclata. Au sein de la compagnie Yumimoto, il semblait que l'on m'avait oublié. C'était ce qui pouvait m'arriver de mieux. Je commençais à me réjouir. Du fond de mon inimaginable absence d'ambition, je n'entrevoyais pas plus heureux destin que de rester assise à mon bureau en contemplant les saisons sur le visage de ma supérieure. Servir le thé et le café, me jeter régulièrement par la fenêtre et ne pas utiliser ma calculette étaient des activités qui comblaient mon besoin plus que frêle de trouver une place dans la société. Cette sublime jachère de ma personne eût peut-être duré jusqu'à la fin des temps si je n'avais commis ce qu'il convient d'appeler une gaffe. Après tout, je méritais ma situation. Je m'étais donné du mal pour prouver à mes supérieurs que ma bonne volonté ne m'empêchait pas d'être un désastre. À présent, ils avaient compris. Leur politique tacite devait être quelque chose comme « qu'elle ne touche plus à rien, celle-là ». Et je me montrais à la hauteur de cette nouvelle mission. Un beau jour, nous entendîmes au loin le tonnerre dans la montagne. C'était Monsieur Omochi qui hurlait. Le grondement se rapprocha. Déjà, nous nous observions avec appréhension. La porte de la section comptabilité céda comme un barrage vétuste sous la pression de la masse de chair du vice-président qui déboula parmi nous. Il s'arrêta au milieu de la pièce et cria d'une voix d'ogre, réclamant son déjeuner, « Fubuki-san !» Et nous sûmes qui serait immolé en sacrifice à l'appétit d'idole carthaginoise de l'obèse. Aux quelques secondes du soulagement éprouvé par ceux qui étaient provisoirement épargnés, succéda un frisson collectif de sincère empathie. Aussitôt, ma supérieure s'était levée et raidie. Elle regardait droit devant elle, dans ma direction donc, sans me voir cependant. Superbe de terreur contenue, elle attendait son sort. Un instant, je crus qu'Omochi allait sortir un sabre caché entre deux bourrelets et lui trancher la tête. Si cette dernière tombait vers moi, je l'attraperais et la chérirais jusqu'à la fin de mes jours. « Mais non, me raisonnais-je. Ce sont des méthodes d'un autre âge. Il va procéder comme d'habitude, la convoquer dans son bureau et lui passer le savon du siècle. » Il fut bien pire. Était-il d'humeur plus sadique que de coutume? Ou était-ce parce que sa victime était une femme, a fortiori une très belle jeune femme? Ce ne fut pas dans son bureau qu'il lui passa le savon du millénaire. Ce fut sur place, devant la quarantaine de membres de la section comptabilité. On ne pouvait imaginer sort plus humiliant pour n'importe quel être humain, à plus forte raison pour n'importe quel nippon, à plus forte raison pour l'orgueilleuse et sublime Mademoiselle Mori, que cette destitution publique. Le monstre voulait qu'elle perdît la face, c'était clair. Il se rapprocha lentement d'elle, comme pour savourer à l'avance l'emprise de son pouvoir destructeur. Fubuki ne remuait pas un cil. Elle était plus splendide que jamais. Puis, les lèvres empâtées commencèrent à trembler et il en sortit une salve de hurlements qui ne connut pas de fin. Les Tokyoïtes ont tendance à parler à une vitesse supersonique, surtout quand ils engueulent. Non content d'être originaire de la capitale, le vice-président était un obèse colérique, ce qui encombrait sa voix de scories de fureur grasse. La conséquence de ces multiples facteurs fut que je ne compris presque rien de l'interminable agression verbale dont il martela ma supérieure. En l'occurrence, même si la langue japonaise m'avait été étrangère, j'aurais saisi ce qui se passait. On était en train d'infliger à un être humain un sort indigne, et ce, à 3 mètres de moi, c'était un spectacle abominable. J'aurais payé cher pour qu'il cessât, mais il ne cessait pas. Le grondement qui sortait du ventre du tortionnaire semblait intarissable. Quel crime avait pu commettre Fubuki pour mériter pareil châtiment? Je ne le sus jamais. Mais enfin, je connaissais ma collègue. Ses compétences, son ardeur au travail et sa conscience professionnelle étaient exceptionnelles. Quels qu'aient pu être ses torts, ils étaient forcément véniels. Et même s'ils ne l'étaient pas, la moindre des choses eût été de tenir compte de la valeur insigne de cette femme de premier ordre. Sans doute étais-je naïve de me demander en quoi avait consisté la faute de ma supérieure. Le cas le plus probable était qu'elle n'avait rien à se reprocher. Monsieur Omochi était le chef. Il avait bien le droit, s'il le désirait, de trouver un prétexte anodin pour venir passer ses appétits sadiques sur cette fille aux allures de mannequin. Il n'avait pas à se justifier. Je fus soudain frappée par l'idée que j'assistais à un épisode de la vie sexuelle du vice-président qui méritait décidément son titre. Avec un physique de son ampleur, était-il encore capable de coucher avec une femme? En compensation, son volume le rendait d'autant plus apte à gueuler, à faire trembler de ses cris la frêle silhouette de cette beauté. En vérité, il était en train de violer Mademoiselle Mori, et s'il se livrait à ses plus bas instincts en présence de 40 personnes, c'était pour ajouter à sa jouissance la volupté de l'exhibitionnisme. Cette explication était tellement juste que je vis ployer le corps de ma supérieure. Elle était pourtant une dure, un monument de fierté. Si son physique cédait, c'était la preuve qu'elle subissait un assaut d'ordre sexuel. Ses jambes l'abandonnèrent comme celles d'une amante éreintée. Elle tomba assise sur sa chaise. Si j'avais dû être l'interprète simultané du discours de M. Omochi, voici ce que j'aurais traduit. « Oui, je pèse 150 kilos et toi 50. À nous deux, nous pesons 2 quintaux et ça m'excite. Ma graisse me gêne dans mes mouvements, j'aurais du mal à te faire jouir, mais grâce à ma masse, je peux te renverser, t'écraser, et j'adore ça, surtout avec ces crétins qui nous regardent. J'adore que tu souffres dans ton orgueil, j'adore que tu n'aies pas le droit de te défendre, j'adore ce genre de viol. » Je ne devais pas être la seule à avoir compris la nature de ce qui se passait. Autour de moi, les collègues étaient en proie à un malaise profond. Autant que possible, ils détournaient les yeux et cachaient leur honte derrière leur dossier ou l'écran de leur ordinateur. À présent, Fubuki était plié en deux. Ses maigres coudes étaient posés sur son bureau, les poings serrés retenaient son front. La mitraillette verbale du vice-président secouait son dos fragile à intervalles réguliers. Par bonheur, je ne fus pas assez stupide pour me laisser aller à ce qui, en pareille circonstance, eût été de l'ordre du réflexe, intervenir. Nul doute que cela eût aggravé le sort de l'immolé, sans parler du mien. Cependant, il me serait impossible de prétendre être fier de ma sage abstention. L'honneur consiste le plus souvent à être idiot. Et ne vaut-il pas mieux se conduire comme une imbécile que se déshonorer ? Encore aujourd'hui, je rougis d'avoir préféré l'intelligence à la décence. Quelqu'un eût dû s'interposer. Et puisqu'il n'y avait aucune chance pour qu'un autre s'y risquât, c'est moi qui eusse dû me sacrifier. Certes, ma supérieure ne me l'eût jamais pardonné, mais elle aurait eu tort. Le pire n'était-il pas de nous conduire comme nous le faisions, d'assister sans broncher à ce spectacle dégradant ? Le pire ne résidait-il pas dans notre soumission absolue à l'autorité ? J'aurais dû chronométrer l'engueulade. Le tortionnaire avait du coffre. J'avais même l'impression qu'avec la durée, ses cris gagnaient en intensité, ce qui prouvait, s'il en était encore besoin, la nature hormonale de la scène, semblable au jouisseur qui voit ses forces ressourcées ou décuplées par le spectacle de sa propre rage sexuelle, le vice-président devenait de plus en plus brutal, ses hurlements dégageaient de plus en plus d'énergie dont l'impact physique terrassait de plus en plus la malheureuse. Vers la fin, il y eut un moment particulièrement désarmant. Comme c'est sans doute le cas quand on subit un viol, il se révéla que Fubuki avait régressé. Fus-je la seule à entendre s'élever une frêle voix, une voix de fillette de 8 ans qui gémit par 2 fois « Okoruna, Okoruna », ce qui signifie, dans le registre du langage fautif le plus enfantin, le plus familier, celui qu'emploierait une petite fille pour protester contre son père, c'est-à-dire celui auquel ne recourait jamais Mademoiselle Mori pour s'adresser à son supérieur. « Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. » Supplication aussi dérisoire que si une gazelle déjà taillée en morceaux et à demi dévorée demandait au fauve de l'épargner. Mais surtout, manquement ahurissant au dogme de la soumission, de l'interdiction de se défendre contre ce qui vient d'en haut. Monsieur Omochi sembla en rien décontenancé par cette voix inconnue, ce qui ne l'empêcha pas de crier de plus belle au contraire. Peut-être même y avait-il dans cette attitude enfantine de quoi le satisfaire davantage. Une éternité plus tard, soit que le monstre fût lassé du jouet, soit que ce tonifiant exercice lui donnait faim pour un double sandwich futon mayonnaise, il s'en alla. Silence de mort dans la section comptabilité. À part moi, personne n'osait regarder la victime. Celle-ci resta prostrée quelques minutes. Quand elle eut la force de se lever, elle fila sans prononcer un mot. Je n'eus aucune hésitation quant à l'endroit où elle avait couru. Où vont les femmes violées? Là où de l'eau coule? Là où l'on peut vomir, là où il y a le moins de monde possible. Dans les bureaux de Yumimoto, l'endroit qui répondait le mieux à ses exigences était les toilettes. Ce fut là que je commis ma gaffe. Mon sang ne fit qu'un tour. Il fallait que j'aille la réconforter. J'eus beau tenter de me raisonner en pensant aux humiliations qu'elle m'avait infligées, aux insultes qu'elle m'avait jetées en pleine figure. Ma ridicule compassion eut le dessus. Ridicule, je maintiens. Tant qu'à agir en dépit du bon sens, j'aurais été 100 fois mieux inspirée de m'interposer entre Omochi et ma supérieure. Au moins, c'eût été courageux, alors que mon attitude finale fut simplement gentille et bête. Je couris aux toilettes. Elle était en train de pleurer devant un lavabo. Je pense qu'elle ne me vit pas entrer. Malheureusement, elle m'entendit lui dire « Fubuki, je suis désolée. Je suis de tout cœur avec vous, je suis avec vous. » Déjà, je m'approchai d'elle, lui tendant un bras vibrant de réconfort. Quand je vis se tourner vers moi, son regard éberlué de colère. Sa voix méconnaissable de fureur pathologique me rugit. « Comment osez-vous? Comment osez-vous ?» Je ne devais pas être dans un jour d'intelligence, car j'entrepris de lui expliquer. « Je ne voulais pas vous importuner, je voulais seulement vous dire mon amitié. » Au paroxysme de la haine, elle rejeta mon bras comme un tourniquet et cria « Voulez-vous vous taire? Voulez-vous vous taire ?» Manifestement, je ne le voulais pas, car je restais plantée là, interdite. Elle marcha vers moi, avec Hiroshima dans l'œil droit et Nagasaki dans l'œil gauche. J'ai une certitude, c'est que si elle avait eu le droit de me tuer, elle n'eût pas hésité. Je compris enfin ce que je devais faire, je déguerpis. De retour à mon bureau, je passai le reste de la journée à simuler une activité minimale tout en analysant mon imbécilité, vaste sujet de méditation s'il en fut. Fubuki avait été humiliée de fond en comble sous les yeux de ses collègues. La seule chose qu'elle avait pu nous cacher, le dernier bastion de son honneur qu'elle avait pu préserver, c'était ses larmes. Elle avait eu la force de ne pas pleurer devant nous. Et moi, futée, j'étais allée la regarder sangloter dans sa retraite. C'était comme si j'avais cherché à consommer sa honte jusqu'à la lie. Jamais elle n'eût pu concevoir, croire, admettre que mon comportement relevât de la bonté, même de la sotte bonté. Une heure plus tard, la victime vint se rasseoir à son bureau. Personne n'eut un regard pour elle. Elle eut un regard pour moi. Ses yeux séchés me vrillèrent de haine. Il y était écrit « Toi, tu ne perds rien pour attendre. » Puis elle reprit son travail comme si de rien n'était, me laissant le loisir d'interpréter la sentence. Il était clair que, selon elle, mon attitude avait été de pure représailles. Elle savait qu'elle m'avait maltraité par le passé. Pour elle, nul doute que mon seul but avait été la vengeance. C'était pour lui rendre la monnaie de sa pièce que j'étais allée contempler ses larmes dans les toilettes. J'aurais tellement voulu la détromper, lui dire « D'accord, c'était stupide et maladroit, mais je vous conjure de me croire. Je n'ai pas eu d'autre motivation que la bonne, brave et bête humanité. Il y a quelque temps, je vous en ai voulu, c'est exact. Et cependant, quand je vous ai vu si bassement humilié, il n'y a plus eu place en moi que pour la compassion primitive. Et fine comme vous l'êtes, pouvez-vous douter qu'il y ait dans cette entreprise, non, sur cette planète, quelqu'un qui vous estime, vous admire et subisse votre empire à un degré comparable au mien ? Je ne saurais jamais comment elle eût réagi si je lui avais déclaré cela. Le lendemain, Fubuki m'accueillit avec cette fois un visage d'une sérénité olympienne. Elle s'est remise, elle va mieux, pensais-je. Elle m'annonça d'une voix posée : « J'ai une nouvelle affectation pour vous. Suivez-moi. »